Ce chacun sa route, c'est une question d'étoiles. De les observer, de les suivre, d'y croire, de se sentir moins seul ou soudain tout petit. C'est se sentir un peu plus près d'elles, ces nuits où partout en France se tiennent de petites assemblées, masquées et gel à la main, pour en apprendre un peu plus sur les étoiles. D'ici à 14h, on lève le nez encore plus haut, encore plus haut, et on s'intéresse aux étoiles. Vos témoignages, votre rapport aux cieux, vos questions aussi. Comme tous les jours, cette émission, nous la construisons ensemble. 01 45 24 7000, vous pouvez d'ores et déjà appeler, chacun sa route en mots-clés sur les réseaux sociaux. Et puis, à partir de 14h, il a suivi son étoile, sa bonne étoile, celle à laquelle on s'accroche, qui nous fait tenir parfois quand les jours sont plus gris. Des jours gris, notre invité en a vécu de nombreux, des jours très sombres même, mais il raconte son périple d'une manière solaire. Ulrich Cabrel viendra nous raconter son exil. Il viendra avec le co-auteur du livre où il retrace son parcours, Étienne Longueville. Il brille de mille feux dans ce studio de France Inter. Clément Nouguier réalise cette émission. Et à la technique, aujourd'hui, Tristan Gratalon. Très heureuse de vous retrouver.
Chacun sa route. Élodie Font sur France Inter.
Quand on veut observer les étoiles, l'idéal c'est de trouver un petit coin de nature, bien tranquille, à l'écart surtout de la lumière des villes, car évidemment, c'est dans l'obscurité que l'on voit le mieux les étoiles.
Un soir sur le bord du chemin, il y avait une étoile, je l'ai ramassée.
J'y vois rien !
Bonjour Guillaume Canard.
Bonjour Élodie.
Vous êtes en duplex de Montpellier dans les locaux de France Bleu. Vous êtes photographe du ciel, auteur de guides. On peut vous lire sur leguideduciel.net, achetez vos guides. Le dernier c'est le guide du ciel de juin 2020 à juin 2021. Et puis on peut aussi vous lire sur un blog, sur lemonde.fr, autour du ciel. Vous habitez dans les Cévennes. Vous avez choisi votre lieu d'habitation en fonction du ciel, Guillaume Canard ?
Presque. Pas dans un premier temps, mais effectivement, maintenant, l'orientation, c'est de se rapprocher de plus en plus des Cévennes, qui sont un endroit merveilleux où le ciel est d'une noirceur exceptionnelle. Et donc, plus j'ai l'occasion de m'y trouver, mieux je me porte.
Avec quoi vous l'observez, vous, le ciel ?
Essentiellement à l'œil nu, en fait. J'ai aussi une paire de jumelles, j'ai des instruments, mais en fait, je m'aperçois que depuis plusieurs années, c'est à l'œil nu que je prends le plus de plaisir à contempler le ciel.
Pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporte, l'œil nu ?
L'œil nu ne diaphragme pas. Des jumelles ou une lunette ou un télescope, ça ne permet de regarder qu'une toute petite portion du ciel, alors qu'à l'œil nu, on s'assoit sur une chaise longue ou on s'allonge carrément sur le sol et on embrase toute la Voie lactée, toute la voûte céleste. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, puisque bon, on peut même voir, d'ailleurs, c'est la bonne période, on peut voir les étoiles filantes où qu'elles apparaissent dans le ciel, alors que si on observe avec un instrument, si l'étoile filante ne passe pas dans le champ, on ne peut pas la voir. Donc l'œil nu, c'est vraiment un rapport privilégié, un contact direct avec l'extérieur, avec le ciel qui nous domine.
Vous dites dans l'un de vos posts de blog qu'il faut parfois plusieurs dizaines de minutes pour que nos yeux s'habituent à l'obscurité. Et est-ce que c'est quelque chose qui se travaille ?
Alors, non, ça ne se travaille pas, c'est automatique. Dès qu'on arrive dans un endroit sombre, suffisamment sombre, en fait, la chimie se met en place au fond de nos rétines et on change de cellules réceptrices. On passe sur des cellules qui sont beaucoup plus sensibles aux baisses de luminosité, aux très faibles luminosités. Par contre, elles ne sont pas du tout sensibles à la couleur. C'est pour ça qu'on dit que la nuit, tous les chats sont gris. Et vraiment, tout le monde a le même fonctionnement. Donc la seule différence, c'est que si on habite en ville, eh bien il n'y a aucun endroit où la baisse de luminosité ambiante permet la mise en place de cette vision ultra sensible. Donc pour vraiment pouvoir en profiter, il faut s'éloigner des lumières artificielles, il faut s'éloigner des centres urbains pour aller dans des endroits où le ciel peut vraiment montrer toute sa splendeur.
Mais est-ce que quelqu'un qui vit dans un endroit sans pollution lumineuse va mettre moins de temps à s'habituer que moi, par exemple, qui habite en ville ?
Non. Vous mettez deux personnes, une citadine, une qui habite en pleine nature, vous les mettez sous le même ciel noir et à la même vitesse, elles commenceront à découvrir le ciel dans les mêmes proportions.
Vous le disiez, dans les villes, on voit moins les étoiles, parfois on ne les voit même pas du tout, souvent masquées par la pollution, les nuages, et vous le disiez, la pollution lumineuse, vous écrivez dans une note de blog, le dôme de pollution lumineuse qui surplombe une grande ville dégrade la noirceur du ciel à des dizaines de kilomètres à la ronde. Et si l'on veut vraiment voir des détails dans la Voie lactée, il est impératif de rechercher les régions que cette épidémie lumineuse ne fait qu'effleurer. Pourquoi le fait que la ville soit allumée nous empêche de voir le ciel, Guillaume Canard ?
Parce qu'en fait, la lumière artificielle se réfléchit sur toutes les poussières qui sont en suspension dans l'air autour de nous et diffuse cette lumière. Donc la nuit, la lumière qui normalement en est faite la nuit que pour éclairer le sol, les routes, les trottoirs, etc., eh bien en fait part vers le ciel en grande partie et empêche de voir les étoiles tout simplement parce qu'elle éclaire le fond du ciel. Donc les étoiles les moins brillantes sont gommées par cette luminosité du fond du ciel. Alors que dès que l'on s'éloigne d'une ville, le fond du ciel est de plus en plus sombre et on peut à ce moment-là voir apparaître, au bout de quelques minutes d'acclimatation, voir apparaître les étoiles les plus faibles et notamment voir apparaître la Voie lactée, qui est absolument impossible de voir dans une ville ou même en périphérie d'une ville. Et donc là, on est vraiment obligé d'aller à 1 heure, 2 heures de voiture d'une ville, selon l'importance de la ville naturellement. Mais vous parliez de quelques dizaines de kilomètres. Malheureusement, une métropole comme Paris, c'est plusieurs centaines de kilomètres l'influence de la pollution lumineuse d'une ville comme Paris.
Ah oui, à ce point-là.
Oui.
Ah oui, c'est impressionnant.
Quand on est au centre de la France, si on fait des, par exemple, on se met à côté de Clermont-Ferrand, si on fait des photographies vers le nord, donc en direction de Paris, eh bien, on voit apparaître, au bout de quelques secondes, le dôme de pollution lumineuse au-dessus de Paris et de la banlieue parisienne.
Vous dites qu'il y a 3 sites en France vraiment préservés de la pollution lumineuse.
Alors, il y en a 3 pour le moment qui ont obtenu un label qui met en évidence la qualité de leur ciel. Et surtout, d'une part, la qualité du ciel, mais aussi la démarche volontariste des habitants de ces régions pour améliorer cette qualité. Et c'est ce qu'on appelle des réserves internationales de ciel étoilé. La toute première a été autour de l'observatoire du Pic du Midi. Donc, en gros, c'est la moitié sud du département des Hautes-Pyrénées qui est considérée comme une réserve internationale de ciel étoilé. Il y a 2 ans, le Parc national des Cévennes, donc tout le centre des Cévennes a obtenu ce label. Et il y a quelques mois à peine, la région du Mercantour, en fait du Haut-Pays Grassois jusqu'à Lubail, a obtenu également ce label. Mais il y a une 4e région qui est en train de demander, de candidater pour obtenir ce label, donc autour, dans le Limousin. Une fois que cette région-là aussi aura obtenu ce label, et je pense qu'elle l'obtiendra dans quelques années, je pense qu'on aura fait le tour des grandes régions où il est encore possible de voir le ciel dans des très très bonnes conditions sur le territoire de la France métropolitaine.
Et si on éteignait un peu plus les lumières dans les villes, est-ce que ça changerait quelque chose ? Ou il faudrait vraiment que ce soit dans une proportion incroyable pour que...
Ah non, c'est vraiment la première démarche. C'est un des bons côtés de la pollution lumineuse, c'est qu'en fait, il suffit d'éteindre ou de mieux éclairer, plus exactement, puisque le but, c'est pas de nous mettre dans le noir toute la nuit. Le but, c'est d'éclairer intelligemment, c'est-à-dire où il le faut, quand il le faut, avec la quantité nécessaire. Et donc, si on faisait ça partout... En fait, on pourrait recommencer à voir la Voie lactée, peut-être pas en plein Paris, mais en banlieue parisienne, comme c'était le cas il y a encore quelques dizaines d'années.
Et la pollution tout court, Guillaume Canat, le fait qu'on rejette du CO2 par exemple, est-ce que le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, ça nuit à notre manière de voir le ciel ?
Alors, possiblement, la pollution industrielle, oui, parce qu'elle rajoute beaucoup de poussière dans l'atmosphère, et comme je le disais tout à l'heure, les poussières servent de support, réfléchissent la lumière artificielle, et donc plus il y a de pollution industrielle, moins bien on voit le ciel, plus la pollution lumineuse est active, en quelque sorte. Ensuite, le CO2, le soufre, notamment pendant le confinement, on s'est aperçu que sur toute l'Europe, sur toutes les grandes métropoles européennes, il y avait une énorme baisse de la pollution atmosphérique liée à ces polluants. Ça s'est traduit, alors c'est vrai que pendant la période de confinement, ça s'est traduit par des observations de très bonne qualité, on voyait très bien le ciel, mais est-ce que c'était lié à ça ou est-ce que c'était surtout lié au fait qu'il n'y avait plus d'avions ? Il n'y avait plus d'avions en circulation et les avions qui circulent toute la nuit, c'est vraiment une des causes essentielles de gêne quand on observe le ciel, même dans un site excellent comme les Cévennes. Les avions, ils n'évitent pas les Cévennes la nuit, ils passent au-dessus. Et donc, là, le fait qu'il n'y en ait plus du tout, ça, c'était vraiment très très sensible et le contact avec le ciel était beaucoup plus fort. Ensuite, pour les autres facteurs de pollution atmosphérique, je ne m'avancerai pas pour le moment.
Oui, et les satellites d'ailleurs aussi. Vous dites que quand vous observez le ciel, vous êtes aussi dérangé par les satellites.
Malheureusement, de plus en plus, oui, parce que il y a des satellites depuis une cinquantaine d'années maintenant, mais d'un seul coup, on vient d'entrer dans l'ère industrielle, j'aurais tendance à dire, des satellites, puisque alors que jusqu'à l'année dernière, il y avait, on va dire, entre 1500 et 2500 satellites en fonctionnement, et puis ensuite suite quelques satellites qui ne fonctionnent plus mais qui sont toujours en orbite autour de nous. D'un seul coup, en fait, quelques entreprises assez importantes, dont notamment SpaceX, du fameux Elon Musk, ont décidé de placer en orbite des dizaines de milliers de satellites. Et ils ont commencé, hein. Il y a déjà, en quelques mois, on a 600 nouveaux satellites. Donc, 600 satellites nouveaux en quelques mois, c'est presque 30% de tous les satellites en fonctionnement l'année dernière. Donc, vous voyez que ça va très très vite. Et normalement, dans 2-3 ans, on devrait avoir 10 000 nouveaux satellites. Et dans 4-5 ans, on devrait avoir 40 ou 50 000 nouveaux satellites. Donc, là, ça devient vraiment de plus en plus perturbant, de plus en plus gênant. Alors, c'est perturbant visuellement, quand on regarde le ciel et qu'on voit passer un satellite. Alors, le satellite, on le voit simplement parce qu'il réfléchit l'éclat du soleil. Mmh. Donc, il n'a pas de lumière à bord. C'est pas comme un avion avec ses feux clignotants rouges et verts, etc. Mais donc, typiquement, quand le soleil est couché depuis très longtemps, le satellite n'est plus éclairé par le soleil et on ne le voit pas passer. Mais par exemple, au crépuscule ou à l'aube, on voit le ciel, mais qui est zébré de satellites qui passent dans tous les sens. Et ça va aller en s'amplifiant dans les années qui viennent. Et c'est un problème pour le contact que l'on peut avoir en tant que simple observateur avec le ciel, mais c'est un problème de plus en plus important pour les observatoires professionnels qui voient leurs observations des objets les moins lumineux de l'univers handicapés par la présence de ces satellites, parce que si une grappe de satellites de 10, 15, 20 satellites passe dans le champ que l'observatoire est en train de photographier, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire pour récupérer l'image, il faut en faire une autre.
Guillaume Cana, vous allez nous dire ce que l'on va pouvoir voir dans le ciel en ce mois d'août et dans les prochains mois. Toutes vos questions, vous qui passez ce Chacun sa route en notre compagnie, 01 45 24 7000 et le mot-clé c'est Chacun sa route sur les réseaux sociaux. Le grand amoureux du ciel, Guillaume Cana, est notre premier invité dans Chacun sa route. Il est dans la Lune, c'est lui qui le dit. Malik Djoudi nous transporte vers notre satellite naturel, la Lune, instant réversible sur France Inter.
Décroche-toi sans tomber, les astres peints de désastre, l'instant irréversible. Je ne suis qu'un passager, mal à l'aise ici. Pardonne-moi d'être tête en l'air, je t'agace à me laisser aller, mon utilité inutile. Je ne me souviens plus d'hier. Je suis dans la lune. Je suis dans la lune. Je suis dans la lune. Je suis bien, éloigne-toi. Je suis dans la lune. Je suis dans la lune. Je suis dans la lune. Je suis bien.
Terre, chacun sa route.
Quelle nuit magnifique, n'est-ce pas, Milou? Oui, il est vrai qu'il fait très chaud. Tiens, tiens, une nouvelle étoile. Oh, c'est curieux, je ne l'avais jamais remarqué. Tout cela m'intrigue, mieux vaut en avertir l'observatoire. Allons-y, Milou.
Parce que Tintin, ça fait toujours plaisir. Nous sommes en duplex de Montpellier avec Guillaume Cana, auteur, entre autres, des livres Le Guide du Ciel. La dernière édition, c'est Le Guide du Ciel de juin 2020 à juin 2021. La semaine prochaine, les perséides, d'une magnifique pluie d'étoiles filantes, devraient illuminer le ciel. Qu'est-ce que c'est exactement, Guillaume Cana?
Les perséides, les étoiles filantes, en fait, sont des phénomènes qui se produisent dans l'atmosphère, donc sont pas à proprement parler des phénomènes de l'espace. Ils sont vraiment à la frontière entre l'espace et la haute atmosphère terrestre. Et en fait, ce sont des poussières que la Terre croise dans son orbite autour du Soleil. Et ces poussières, en fait, en arrivant à très grande vitesse, rentrent en collision, en fait, avec la haute atmosphère et produisent ce phénomène lumineux très bref qu'on peut observer quand on est au sol. Alors, ce qui est intéressant, c'est de remonter un cran au-dessus, c'est que ces poussières, elles sont dans l'espace parce qu'elles ont été déposées dans l'espace par des comètes. Des comètes qui sont des objets qui appartiennent au système solaire et qui tournent autour du Soleil, comme la Terre tourne autour du Soleil. Et ces comètes, quand elles se rapprochent du Soleil, comme elles sont essentiellement composées de, on va dire, de glace d'eau et de poussière, eh bien, en s'approchant du Soleil, la température les fait s'évaporer, se sublimer, la glace se transforme directement en vapeur et s'éparpille le long de la trajectoire de la comète en emportant avec elle des poussières qui se dispersent sur la trajectoire de la comète. Quand une comète traverse l'espace et en passant à l'endroit où passe habituellement la Terre autour du Soleil, eh bien quand nous arrivons, nous rentrons en collision avec toutes les poussières qu'elle a déposées. C'est ce qui se passe pour les perséides. C'est une comète qui revient régulièrement autour du Soleil, qui les a déposées. C'est pas la toute dernière comète, hein, celle dont on a parlé au mois de juillet, NEOWISE. Celle-ci, elle a peut-être déposé des poussières sur son orbite. Elle en a très probablement déposé beaucoup parce qu'elle était vraiment très belle. Mais a priori, il y a aucune chance que la Terre passe dans son orbite puisqu'elle est passée à plus de 100 millions de kilomètres de nous et loin de notre orbite. Donc elle donnera pas de naissance à une pluie d'étoiles filantes. En revanche, donc les perséides, on sait que tous les ans, à peu près à la même période, donc un peu avant la mi-août, la Terre arrive dans cette région de son orbite qui est plus poussiéreuse que le reste. Mais ça veut dire que...
Ah, c'est pour ça. Parce que j'allais vous demander pourquoi c'est au mois d'août. C'est parce que dans notre manière de tourner, c'est à ce moment-là que la Terre rencontre ce champ de poussière.
Absolument. Mais en fait, c'est pas le seul. On parle de façon privilégiée des perséides parce que elles se déroulent à la mi-août, à un moment où c'est agréable d'observer, etc. Mais il y a d'autres périodes de l'année où on voit des étoiles filantes, même certaines où on en voit des beaucoup plus belles. Mais je pense notamment aux Géminides, mais c'est en décembre, ou aux Léonides en novembre, à des périodes où soit il ne fait pas très beau, soit il fait très froid, et donc on est moins amené à observer le ciel. Voilà, on est moins motivé pour sortir toute la nuit.
Et donc on parle d'étoiles filantes, mais en réalité, ce ne sont pas des étoiles.
Non, ce sont juste des petites poussières qui produisent un phénomène lumineux en disparaissant dans la haute atmosphère.
01 45 24 7000 pour vous qui voulez participer à cette émission. Bonjour François, bienvenue sur France Inter.
Bonjour.
Votre témoignage d'amoureux du ciel, je crois.
Oui, alors mon témoignage, il est aussi pour mettre l'accent sur un aspect peut-être un peu plus confidentiel du ciel, c'est celui de la poésie. De la philosophie, d'une certaine manière, puisque le ciel ne fait pas que nous raconter des histoires de satellites ou d'expéditions vers Mars. Hein. On a beaucoup parlé avec M. Cana, que je salue, parce que c'est vraiment, bien sûr, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup dans le cadre de l'astronomie amateur. Moi, je suis astronome amateur basé à Royan. Et le ciel, hier, on a parlé sur France Inter précisément également de ces constellations de satellites avec envoyées par SpaceX, Elon Musk, etc., qui est absolument, évidemment, pour nous, quelque chose d'absolument, pour le
terrible.
Moins scandaleux, je dirais. Mais au-delà de ça, si vous voulez, c'est toute cette pollution du ciel à laquelle on assiste aujourd'hui, elle nous empêche aussi de rêver hein, au ciel, et puis de regarder, en fait, aussi toutes les histoires qui peuvent charrier non seulement les étoiles, mais bien sûr les constellations, parce que les constellations de notre ciel, elles nous racontent des histoires... qui sont venus de civilisations anciennes, telles les Grecs. Hein. On parle évidemment de la Grande Ourse, pour les plus connus, de Cassiopée, de Persée. Toutes ces constellations, en fait, nous comptent des thèmes qui sont un peu au fondement aussi de notre civilisation. On peut lire, par exemple, dans La Grande Ourse, une histoire du rapport entre les hommes et les femmes, de la violence faite aux femmes, puisque l'histoire de La Grande Ourse, en fait, se base sur l'histoire d'une mortelle, Callisto, hein, qui avait été abusée par un dieu et qui a ensuite été mis au ciel. Donc, vous voyez, c'est des thèmes, en fait, qui peuvent aussi nous faire réfléchir compte tenu de notre actualité contemporaine, hein, autour de tout le débat autour justement des violences faites aux femmes. On peut parler également du rapport à la mort quand on regarde Persée, quand on regarde la Gorgone, hein, Persée qui tient dans sa main la tête de la Gorgone. Alors ce rapport à la mort, il est intéressant à observer aussi dans le ciel, puisqu'on sait que la mort, c'est quelque chose qu'on a du mal à regarder aujourd'hui en face dans nos civilisations.
Et là, on peut... c'est toute une histoire, c'est ça que vous voulez nous dire,
voilà,
François. C'est
vraiment cette histoire, toutes ces mythologies. On peut lire aussi
et toute cette poésie.
Oui,
peut-être on va laisser Guillaume Canat réagir à cette poésie du ciel, où je sais que vous aussi vous y êtes très sensible.
Ah bah là, Philippe prêche un converti. Oui. Moi, la poésie du ciel, c'est ce qui me parle le plus dans l'observation du ciel et le rapport très intime qu'on peut avoir l'observation du ciel et le ciel étoilé. C'est quelque chose qui est fondamental pour moi dans mon existence. C'est même pas, pour moi, l'observation du ciel, c'est même pas un plaisir. C'est un besoin. C'est une nécessité. J'ai besoin de ce contact très régulièrement avec le ciel étoilé. Ma vie s'obscurcit en quelque sorte. Oui. Je pense moins clairement quand je n'ai pas un contact régulier avec les étoiles.
Et quand vous observez le ciel, vous, en l'occurrence, Guillaume Canat, vous l'observez toute la nuit, pas seulement quelques minutes. C'est presque méditatif.
Ah, complètement, oui. C'est vraiment méditatif. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime beaucoup faire partager depuis quelques années, parce que les moyens technologiques me permettent de faire ce genre de choses, dans des petits films, que des petites vidéos accélérées, en fait, qui permettent en quelques dizaines de secondes ou en quelques minutes de retracer une nuit entière. Et moi, j'aime bien montrer ça, puisque ça montre en fait la lenteur, ça montre quelque chose que notre civilisation oublie de plus en plus. Observer le ciel toute la nuit, c'est de longues pauses, des moments où on va s'asseoir par terre et ou même s'allonger, regarder le ciel, réfléchir. Puis bon, quand on est photographe comme moi, on se relève pour aller vérifier un instrument, un appareil, vérifier que les poses se déroulent correctement. Et puis on relève à nouveau la tête vers les étoiles et on pense à ce monde qui nous entoure, à cet environnement. Puisque pour moi, le ciel, c'est un environnement au même titre que la nature et notre environnement immédiat. Le ciel, c'est l'environnement au-delà de l'atmosphère de la Terre. Mais bon, la Terre fait partie de l'univers, est un élément de ce ciel, et pouvoir se raccrocher à l'observation du ciel pour se le rappeler, c'est toujours important pour moi.
Et comme le disait François, ça fait aussi partie de notre histoire, et ça fait aussi partie des histoires qu'on se raconte. C'est vrai qu'il parlait de la Grande Ourse, alors c'est la constellation la plus connue, c'est celle qu'on apprend à l'école, qu'on apprend quand on est enfant. D'ailleurs, c'est une constellation que l'on ne voit comme ça que dans l'hémisphère nord.
Alors on la voit un peu au-delà de l'hémisphère nord, hein. On peut la voir jusqu'aux tropiques, etc. Mais ensuite, effectivement, dès qu'on descend trop loin dans l'hémisphère austral, on ne la voit plus. Mais bon, c'est la
pourquoi c'est celle-là qui a gagné cette constellation?
Tout simplement parce qu'en fait, c'est une constellation. En fait, la partie importante de cette constellation, ce qu'on appelle la casserole ou le chariot, qui est constitué de 7 étoiles très brillantes, eh bien, à nos latitudes, aux latitudes européennes, elle est visible tout au long de la nuit et tout au long de l'année. C'est ce qu'on appelle une constellation circumpolaire. En fait, elle est suffisamment proche du pôle nord céleste pour ne jamais passer sous l'horizon. Donc, c'est vraiment un point de repère important, puisque quelle que soit la date de l'année, quelle que soit l'heure de la nuit, on peut, en regardant plus ou moins dans la direction du nord, identifier les étoiles de la casserole. Et voilà, elle nous accompagne donc et elle nous permet, ensuite en faisant des alignements avec ces étoiles très brillantes, on arrive à en trouver d'autres, à trouver d'autres constellations. Donc c'est vraiment une table d'orientation en quelque sorte. C'est vraiment l'objet qu'il faut connaître avant de se lancer dans la découverte du ciel.
Guillaume Canat, vous restez avec nous. Je vous présente Valère Coréard qui est avec nous en studio, qui dirige l'infodurable.fr. Et c'est vous, Valère, qui, ce vendredi, nous apportez un regard sur le monde et sur la planète.
Tu veux m'aider pendant l'expédition? Pour y aller ensemble?
J'ai école le vendredi.
Chacun sa route.
Ah bah dis-le si tu veux pas venir, on va te chercher des excuses.
Sur France Inter.
Bonjour Valère Coréard.
Bonjour.
Alors aujourd'hui vous voulez nous parler nature.
Ah c'est beau quand même, hein. On se sent tout petit en bas de la montagne, La mer, ça m'apaise, c'est fou. Mais qu'est-ce que je dors bien à la campagne? Depuis que j'ai un potager, ma relation à la nourriture a changé. Ça nous parle à tous, non, ces petites phrases, quand on entre en contact, et pourquoi pas en résonance avec la nature. Eh ben oui, ça fait du bien. Et j'ai trouvé saisissant d'ailleurs de voir à quel point elle était résiliente, cette nature, pendant le confinement. Alors que nous étions en mode confinés pour essayer de se protéger, très probablement d'ailleurs du résultat de nos propres excès, on assistait à la résilience écologique d'une certaine manière, un tout petit début de retour à l'équilibre visible de nos yeux enfermés. Une partie de l'activité humaine crée ce que certains appellent la nécrosphère, et dès qu'on la met en veilleuse, la biosphère reprend ses droits, on lui inflige un traitement inhumain, et pourtant elle nous a offert un spectacle salutaire en pleine crise.
Et on en a déjà parlé d'ailleurs dans cette émission de ce rapport à la nature et de la nature qui faisait son grand retour pendant le confinement.
Bah oui, Elodie, et pour cause, hein, quelques exemples ont fait parler d'eux. Pendant ce temps-là, on a vu des canards en file indienne dans les rues de Paris, des cerfs se balader en ville, le fond des eaux fluviales de nouveau visible, le retour même de certaines espèces d'oiseaux. On a aussi entendu que cette pause subie, et qu'on aurait bien entendu voulu éviter à tout prix, hein, avait permis de faire baisser sensiblement les concentrations des principaux polluants atmosphériques. 49% pour le dioxyde d'azote par exemple. Bref, quand on se calme, on laisse de nouveau la place au reste du vivant, dont nous avons évidemment besoin pour vivre nous-mêmes, c'est ça un écosystème. Hein. Et je me dis que cette expérience conjuguée avec une sensibilité écologique de plus en plus importante, eh bien ça pourrait bien faire boule de neige.
Et l'été, c'est une période propice pour essayer de continuer l'expérience?
Observer la nature sous toutes ses formes, c'est gratuit, ce qui est quand même de plus en plus rare. Ça fait du bien, c'est souvent ludique et ça nous remet à notre place, c'est vrai. On réalise d'un coup qu'on n'est pas si grand que ça, malgré notre ego, bien souvent énorme. Cet ego, la nature, elle s'en fout. Contempler un petit plant de tomate évoluer chaque jour sur un bout de balcon avec ses enfants, c'est apprendre que les tomates, c'est long à faire pousser. Et puis, qu'est-ce qu'elles sont bonnes, ces tomates? Essayer de reconnaître une plante ou un oiseau, ça peut être aussi drôle qu'un jeu sur la tablette. Lever les yeux vers le ciel, la nuit tombée, et observer l'infiniment grand pendant que l'infiniment petit nous a tous bousculés, c'est du rêve éveillé, et ça, on en a bien besoin.
Merci Valère. Vous m'expliquerez comment faire des tomates bonnes sur un balcon, parce que les miennes sont vraiment... vraiment pas très très bonne. Guillaume Cana, vous restez avec nous. Vos questions, vous qui nous écoutez sur le ciel, sur votre manière de vivre un peu plus près des étoiles. 01 45 24 7000, le mot-clé, chacun sa route sur les réseaux sociaux. Guillaume Cana, rêvons, restons dans les étoiles avec la voix intimiste et délicate du sud-africain Bongeziwe Mamandla, Mambelelakoum sur France Inter.
Tene sepata na kanchena kwanzema ongokwalela na kumane kamyase na ya selatlaga sesobabene. Ce
France Inter, chacun sa route. En duplex de Montpellier avec le photographe du ciel Guillaume Cana, auteur du blog sur lemonde.fr autour du ciel. Guillaume Cana, observer le ciel. Évidemment, on est sensible, nous, ici à France Inter, au son, c'est aussi entendre la nuit.
Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je crois reconnaître des ambiances sonores derrière.
Qui sont les vôtres?
Effectivement, depuis quelques années, maintenant, je fais de la photo, mais j'accompagne toujours mes photos de sons que j'ai enregistrés pendant mes nuits. Et naturellement, bon, ben, selon les nuits, il y a plus ou moins de richesse dans les différents sons. Là, ce sont beaucoup d'oiseaux au printemps sur le Cosmégean, si je ne me trompe pas. Mais à d'autres périodes, surtout dans les Cévennes, on entend le brame du cerf, ou on entend des renards qui chassent, ou on entend beaucoup de chouettes. On a la chance dans les Cévennes d'avoir la chouette de Tengmal, qui est une superbe petite chouette qui fait un sifflement la nuit très régulier, comme un petit staccato. Et ça accompagne vraiment de longues soirées, de longues veillées nocturnes. Et en quelque sorte, ça ancre le souvenir des observations. L'observation du ciel, c'est pas simplement regarder le ciel étoilé, c'est vraiment s'imprégner de l'ambiance qu'il y a au moment où on observe le ciel étoilé. Et donc, ce sont des odeurs. Les odeurs de la nuit sont très fortes, souvent en début de nuit, quand le soleil disparaît, les senteurs du sol remontent. Et puis ensuite, ce sont des sons que l'on entend tout au long de la nuit, plus ou moins forts, selon la période, selon la saison. L'hiver, sur le Mont Aigoual, dans les Cévennes, l'hiver, c'est le silence absolu. Le seul son que l'on entend, c'est sa propre respiration et le battement du sang dans ses veines. Mais par contre, quand on arrive au printemps ou à l'automne, alors là, il y a une multitude d'animaux, d'activités animales la nuit, et c'est très 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 beau, quoi. Ça permet vraiment de mémoriser des scènes qui, sans cela, ce serait peut-être mélangé avec d'autres scènes identiques observées quelques années auparavant. Non, là, avec le son, on a une classification très 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 précise, et vous passez ces sons et vous vous retrouvez sous le ciel étoilé qu'il y avait à ce moment-là.
Ma question va peut-être vous paraître un peu bizarre, Guillaume Cana, mais quand je vous ai lu, je me suis demandé, mais comment vous positionnez ? Vous êtes allongé dans l'herbe ?
C'est ce que je disais tout à l'heure, je peux avoir toutes les positions pendant une nuit. Quand je prépare des photographies, eh bien je suis forcément debout, un peu tordu à côté de mon pied photo pour regarder vers le ciel, etc. Et puis une fois qu'une série de photos est lancée, j'observe et donc je vais m'asseoir, je vais m'allonger par terre. J'ai des observations récentes où j'étais allongé sur le bord d'un champ de blé et en fait j'avais les épis de blé qui montaient au-dessus de ma tête et le ciel qui apparaissait entre les épis de blé, donc là aussi, ce sont des ambiances très très particulières, d'autant qu'il y avait quelques sangliers qui circulaient aussi un peu plus loin dans le champ, donc je ne suis pas resté très longtemps à cet endroit-là. Mais bon, voilà, toutes les positions sont possibles, et puis surtout, le fait de prendre son temps, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment fondamental. Mmh. On ne va pas dehors pour observer pendant 10 minutes et puis rentrer, regarder quelque chose sur sa tablette.
Oui,
ou machin.
On est dans un autre rapport au temps.
On est dans un rapport complètement différent au temps, et on embrasse le moment et on se fond dans le moment le plus longtemps possible.
Nous sommes en ligne avec Dietmar. Bienvenue sur France Inter.
Oui, bonjour.
Votre témoignage, votre question.
Voilà, je voulais juste intervenir sur deux points. Moi, j'habite dans le pays de Bray et j'ai vu la pollution lumineuse augmenter considérablement. Par exemple, avec les aires d'autoroute et les péages, ça fait des dômes lumineux visibles à des dizaines de kilomètres et on ne voit plus les étoiles vers ces points d'horizon où ils se situent. Et deuxième point qui me semble encore plus important, les animaux sauvages comme les oies, ils s'orientent avec les étoiles. Et si Monsieur Elon Musk il met des tas de points lumineux dans le ciel, ces animaux sauvages vont être très perturbés dans leur migration. Le jeune oiseau, il regarde le ciel, il est dans son nid, il regarde le ciel, et il apprend le ciel, et après, avec ses parents, il apprend ça. Donc, faut faire très attention, faudrait faire des études d'impact. Les pseudo-modernités, des fois, elles sont vraiment... grave, quoi. Voilà ce que je voulais dire.
Merci pour votre témoignage, Guillaume Cana. On a parlé de la pollution lumineuse tout à l'heure, on a aussi parlé des satellites, mais effectivement, on n'avait pas parlé de ces animaux qui se guident grâce aux étoiles.
Oui, tout à fait. Et la réflexion de votre auditeur est tout à fait juste. Bon, ce sont des phénomènes assez récents, donc il n'y a pas encore d'études suffisamment fouillées sur les sujets. Mais c'est clair que l'impact de la multiplication de points lumineux dans le ciel qui se déplacent par rapport aux étoiles, ça peut être très perturbant pour certaines espèces, c'est clair, oui.
On parle beaucoup des étoiles là sur France Inter depuis quelques jours et vous allez en entendre parler, auditeurs, dans pas mal de vos magazines, journaux, puisque ce sont les Nuits des Étoiles, 30e édition ce week-end et dans les jours qui vont suivre. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui regarde le ciel attentivement pendant un long moment? On en a parlé de prendre ce temps pour la première fois. Comment on fait au tout début?
Comment on fait? Eh bien, toutes les expériences sont possibles, mais c'est vrai que il y a deux rapports. On a un premier contact avec le ciel qui est purement esthétique, qui est purement sensuel par rapport à la beauté simplement d'un ciel étoilé ou d'une voie lactée. Quand on a la chance de pouvoir observer la voie lactée, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à observer. Mais dans un deuxième temps,
c'est un arche, hein, la voie lactée. Sur vos photos, en tout cas, ça ressemble vraiment à un arche.
En ce moment, effectivement, elle va du nord au sud en passant par le zénith, donc par le sommet du ciel. Donc ça fait comme une grande arche qui nous enveloppe. Donc c'est très très spectaculaire, mais à d'autres moments de l'année, la Voie lactée est couchée sur l'horizon est ou ouest. Mais dans un deuxième temps, en fait, on peut avoir une volonté de mieux apprendre à connaître ce ciel. Et en fait, comprendre et connaître les étoiles, le fonctionnement de l'univers tel qu'on l'explique de nos jours, ne diminue pas du tout en fait la beauté du ciel ou la poésie qu'il peut faire naître. Au contraire, ça rend un sentiment beaucoup plus familier avec les étoiles. On sort et puis d'un seul coup on va repérer les étoiles qu'on aime bien, que pour certains c'est Orion, pour d'autres c'est Vega ou Arcturus, etc. Et ce sont des étoiles qui deviennent des amis ou comme dans une forêt, un bel arbre qu'on aime particulièrement, et bien pareil dans le ciel, on a une ou deux étoiles qu'on aime particulièrement. Donc c'est un contact beaucoup plus proche que l'on peut définir avec le ciel. Mais dans l'absolu, moi ce que je dirais, c'est que on peut soit aller le découvrir tout seul, soit connaître quelqu'un qui a déjà observé le ciel et qui vous accompagne dans cette découverte, qui vous guide dans cette découverte.
Comme vous, bien sûr, Guillaume Cana. Le guide du ciel de juin 2020 à juin 2021. Il y a aussi le site du guide du ciel, leguideduciel.net. Et puis vous avez aussi un blog sur lemonde.fr autour du ciel. Merci beaucoup d'avoir passé cette première partie de Chacun sa route avec nous, Guillaume Cana.
Merci, Elodie.
Et puis bonne continuation autour de Montpellier. Merci aussi aux équipes de France Bleu à Montpellier. Dans un instant, on va faire une route difficile. On va partir du Cameroun et remonter vers la France.